Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast, avec aujourd'hui l'écrivain et essayiste Pacôme Thielman. Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son ce matin Alain Joubert.
Le Réveil culturel.
Aujourd'hui, tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or, de Pacôme Thielman, sorti récemment chez Massot Éditions. Ce n'est pas un essai cette fois, mais le roman d'un essayiste pop culture qui s'essaye au récit autobiographique. Ce n'est pas de l'autofiction pour faire littérature, mais une démarche introspective dans un beau désordre chronologique. Et tout ça pourquoi ? Bonjour, Pacôme Thielman.
Bonjour.
Alors, dévoiler les moments les plus pénibles de sa vie amoureuse, sexuelle, intellectuelle, professionnelle, c'est ce que vous faites dans votre livre. Vous racontez votre labyrinthe des malheurs, pour reprendre votre expression, Pacôme Thielman. Écrire sur ses douleurs les plus vives, établir un recueil clair de ses épreuves passées, pour mieux questionner les grands maîtres. Voilà, c'est ce que vous faites. Enfin, mais que pensent les grands maîtres de nos petites misères ? Première question. Et deuxième question, qui sont les grands maîtres de Pacôme Thielman ?
Pendant que je l'écrivais, j'y pensais pas. Mais une fois que j'ai terminé, je me suis dit que l'inspiration première devait venir de la musique soul. En fait, s'il y a bien une musique qui a compris des figures qui pour moi sont des maîtres, comme Otis Redding, et qui ont passé leur temps à chanter leur malheur, mais le chanter leur malheur pour donner beaucoup de joie, je me suis dit que ça devait être probablement ça qui fait que lorsque est venue l'idée, qui n'est pas venue de moi d'ailleurs au départ, hein, c'est une proposition de l'éditrice Ariane Molcou, d'écrire un livre...
qu'il soit un essayiste travaillant sur plutôt sur la pop culture.
J'ai eu envie de pas m'attarder sur des trucs qui seraient les moments joyeux de mon existence, parce que j'en ai vu quand même un certain nombre, mais je trouvais qu'ils étaient pas porteurs. Ils étaient pas porteurs de connaissances déjà, pas suffisamment. Et puis aussi le fait que si j'avais eu à lire l'autobiographie de ma voisine du dessus ou de la personne, je sais pas quoi, de mon épicier par exemple, j'aurais pas forcément été intéressé qu'il me raconte à quel point il était heureux d'avoir rencontré sa femme, heureux d'avoir fait des enfants, heureux ceci ça. Ça m'aurait probablement saoulé assez vite. Par contre, j'aurais été très intéressé de savoir qui pour lui avait été le plus dur dans sa vie et qu'est-ce qu'il en avait tiré. Qu'est-ce qu'il avait réussi à en tirer pour les autres ? Parce qu'il y a peut-être une dimension à ce moment-là vraiment partageable. C'est-à-dire, fondamentalement, dans ces épisodes-là, dans les épisodes où on traverse le labyrinthe, hein, le labyrinthe de malheur, où on voit scintiller devant soi presque les lumières négatives, quoi, de ce qui, en gros, va dessiner notre vie. Là, on a quelque chose qu'on peut donner aux autres, vraiment.
Le malheur est formateur pour vous ?
Il a été en fait très formateur et pour mon travail et puis pour moi-même et puis mes joies. En fait, bon, bah quoi, c'est le sujet du livre, quoi. Mes joies sont nées de ces malheurs, c'est-à-dire sont nées du moment où de ces malheurs j'arrivais à en faire quelque chose d'autre.
Vous le dites très bien d'ailleurs, sans malheur, pas de bonheur. Mais Pacôme Thielman, et si on s'attardait d'abord, avant de rentrer dans votre univers, dans ce livre, dans votre vie, si on parlait du titre, tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or. Le titre de votre livre fait référence bien sûr à Baudelaire. Baudelaire s'adressant à Paris, écrit dans un poème inachevé, tu m'as donné de la boue et j'en ai fait de l'or. Or longtemps, vous étiez persuadé qu'il avait dit de la crasse.
Oui.
Baudelaire parlait de Paris, là oui. Vous parlez de la vie en général.
Oui, tout à fait, voilà, c'est ça, absolument. Oui, c'est j'ai étendu, c'est un pari cosmique. C'est le pari du mauvais démiurge, c'est le cosmos comme une espèce de gigantesque ville de Paris.
Dans votre récit autobiographique, en même temps qu'une quête des guides spirituels, des maîtres pour mieux voir, mieux être, mieux faire, mieux savoir, mieux vouloir, mieux aimer, l'entendez-vous, vous pensez que seuls les poètes savaient. Nerval, Baudelaire, on a parlé, Henri Rimbaud, Artaud avaient été vos principaux repères. Maintenant, vous cherchez chez les mystiques, chez les philosophes, dans l'Antiquité, mais aussi dans la pop culture, beaucoup dans la pop culture. Vous avez dit que la musique noire était pour vous très importante pour comprendre votre cheminement.
Oui, quand j'avais 16-17 ans, c'était presque exclusivement les poètes. Quoi, j'avais déjà les Beatles, j'ai toujours eu les Beatles. Et puis la bande dessinée aussi. Disons que ce qui a beaucoup changé, ce qui est arrivé, c'était la découverte des textes de ceux qu'on appelle les gnostiques, enfin de ceux que les chrétiens ont appelé les gnostiques. Moi, j'ai repris le nom que Jésus leur donne, les 100 rois.
Les 100 rois, oui.
En fait, c'est venu par une intrication d'événements, un petit labyrinthe que je raconte dans le livre. Enfin, en gros, c'est vraiment John Lennon et Philip K. Dick qui m'ont tous les deux mis sur cette piste à travers des écrits, hein, je précise. Hein, je suis pas si vieux que j'aurais pu les croiser. Mais et ça a changé beaucoup de choses parce que ce qui les distinguait, évidemment, penser le monde comme la création d'un mauvais démiurge. Donc à ce moment-là, le rapport qu'on a avec le monde, avec la vie, est complètement différent. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de récompense d'une divinité toute-puissante. On n'attend pas ça. On n'attend pas qu'un dieu seigneur, autoritaire, mécontent de nous, jaloux, nous dicte notre conduite. Mais on essaye de s'accorder à des principes qui sont celles d'une divinité à la fois extrêmement aimante, mais extrêmement faible en ce monde. Peu, voire pas capable d'agir autrement que à l'intérieur, dans le cœur. Du coup, c'est un renversement complet des attentes, si tant est qu'on a des attentes par rapport à la vie. On ne regarde plus le monde pareil, on regarde plus les hiérarchies de la même façon. Et ça, bon, ça avait une résonance pour moi, parce que si je m'intéresse à ce qu'on appelle la pop culture, pour moi, quoi, Shakespeare, c'est de la pop culture, donc je sais plus aujourd'hui si je dois vraiment le distinguer. Mais je dois distinguer, je dirais, une chose, c'est que c'est la culture non académique. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la culture non académique, c'est-à-dire c'est une culture dont les bases sont populaires de toute façon. Qu'elle soit populaire au XVIe siècle, comme Shakespeare ou Rabelais, qu'elle soit populaire, mais si elle est populaire aujourd'hui, alors c'est où elle se trouve. Elle s'est trouvée pendant longtemps dans la science-fiction, dans ce qu'on appelle la musique pop, en tout cas dans toutes ses variations, parce que la musique soul aussi est une musique éminemment populaire. Elle peut se retrouver dans les séries télévisées.
C'est romantique comme idée, mais comment ça vous aide? Comment ça vous structure? Comment cette culture pop peut devenir pour vous mystique, pas comme tellement.
Dick le dit autrement, mais en fait, c'est son rêve obsessionnel, comme quoi, on va dire, le message, la vérité du monde se retrouverait dans un fascicule, comme il faisait des fascicules de SF quand il était très jeune. Il avait ce rêve-là. Il avait un fascicule où il y avait écrit, en gros, l'Empire n'a jamais pris fin. Et c'était un fascicule qui allait être un fascicule de science-fiction, mais dedans, il y aurait les messages de la divinité. Et puis ensuite, dans plein de ses romans, il va développer ce genre d'idées, comme dans Ubik, où c'est même à travers des publicités, ou des produits qu'on achète chez l'épicier, qu'il va y avoir des tout petits messages de la divinité qui sont comme des messages qu'essaye de faire passer à travers les barreaux de la prison du monde. Et donc, du coup, c'est une quête, en fait. Il n'y a pas de certitude là-dedans. C'est des hypothèses de travail. C'est à partir de ça, on peut essayer de trouver quelque chose. Le plus important, c'est qu'il y ait un raccordement qui puisse se faire entre soi-même et ce qu'on étudie. Un raccordement ou, on va dire, une relation d'amour. Et dans cette relation d'amour, il va pouvoir se dire des choses à la fois sur ce qu'on aime et à la fois sur ce qu'on est.
Le réveil culturel. Toufik Hakem. Who's the one with the grin on his face? Says gonna save the human race. He laughs a lot as he climbs to fame. Now what's his name? Banana. That's me and I'll show you the light. I've got the answers and they're alright. Cause I'm divine and you can be the same. What's my name? Banana. 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 You banana. What's my name? Banana. Thank you.
humor, a different sound. You think it's new, but it's just the same. Now suck it to me once again.
Mon invité ce matin, Paco Thielmont, raconte dans son récit autobiographique, édité par Masso, « Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or » qu'il en a marre d'être traité de gourou. C'est ce que vous dites, je suis fatigué du qualificatif gourou. Dans un monde où les États, la presse et l'économie sont dirigés par des gourous, je trouve injuste de devoir l'assumer ou le supporter en silence. Alors si vous devez l'utiliser encore une fois, si vous le faites parce que ça vous amuse, parce que je porte la barbe, parce que je vous fais penser à un ogre ou parce que je vous agace, je vous prierai d'ajouter le mot banane derrière, comme dans la chanson de Kevin Ayers. Je suis un gourou banana, comme vient d'écouter.
Gourou banana.
Longtemps, on vous a pris pour un gourou.
Bah, en fait, disons que c'est un qualificatif qui a commencé dès que j'avais, mettons, 20 ans, 21 ans. Donc, maintenant, ça fait plus de 20 ans. Mais ça m'intéressait de réfléchir à cette question-là. Et en fait, ce à quoi je suis arrivé, c'est que la question du gourou, elle est extrêmement, brûlante, en fait, aujourd'hui. Non seulement parce que, on est dans une période, en tout cas, qu'il n'y a pas de guide au sens propre, des guides traditionnels. Parce que le gourou au sens traditionnel, moi, j'ai que du respect pour eux. Si c'est les gourous indiens, évidemment, je suis pas là pour dire c'est une insulte. Je le trouve le qualificatif extrêmement déplacé parce que j'ai ni l'ambition, ni les capacités, ni la qualité d'âme pour en devenir un. Et puis certainement pas en plus les pratiques. Mais par contre, dans la version la plus courante, le gourou, bon bah c'est un arnaqueur et c'est quelqu'un qui abuse de la crédulité des autres. Et il a un certain nombre de, on va dire, il y a un certain nombre de traits de son caractère ou de son mode de vie. Vous voyez, il vit en général en communauté. Moi, je prise ma solitude, mais vraiment tellement. Ouais. En général, il abuse, on va dire financièrement ou sexuellement, des personnes qui sont autour de lui.
Voilà,
comme je suis souvent seul, normalement, c'est pas le cas. Mais surtout, à part vendre des livres, je demande pas d'argent. Donc tous ces trucs-là, ça me semblait lourd. Mais je comprenais derrière qu'il y avait une angoisse sur l'idée qu'il y avait des mauvais gourous un peu partout. Et puis quand on y réfléchit, fondamentalement, le fonctionnement managérial, entrepreneurial actuel a quelque chose de la parole du gourou, parce que c'est tout ce qui est de l'ordre des mots-clés qu'ils utilisent, de cette parole qui semble complètement déconnectée de la réalité, qui fonctionne comme des mantras.
Ça n'existe pas un bon gourou, c'est-à-dire quelqu'un qui nous emporte dans son monde, fait d'auteurs de science-fiction, de metteurs en scène, de culture pop, de musique, ce que vous faites, pas comme Tillman.
Oui, bah ça c'est, on va dire, c'est plus de l'ordre de... Moi, j'aime beaucoup les figures d'enchanteurs. Je prétends pas être ça non plus, quoi. Mais disons que c'est cela que je vois avec admiration. Bon.
Êtes-vous un influenceur, par exemple, comme Thielmont?
Ah oui, ça, ce terme qui renvoie à la façon dont ça fonctionne sur les réseaux sociaux.
Entre autres, vous êtes très présent.
Oui, je suis très présent sur les réseaux sociaux.
Vous appelez d'ailleurs ça la Facebookerie.
Oui, la grande Facebookerie.
Ouais.
Bon, il fallait lui donner un nom un peu jarriesque. vous savez, c'est Jarry, il appelait à peu près tout ce qui était dans sa vie, que ce soit des endroits où il allait manger ou là où il habitait, grande quelque chose. Donc,
alors,
la grande chasublerie, c'était
sa
maison. Écoutez, c'est difficile de se définir. J'essaye de pas me définir, mais j'ai rien contre, en fait, l'idée d'être quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui fait traverser des choses, qui propose des choses. Et j'aime beaucoup le travail sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas seulement un truc où on essaye de parler des choses qu'on aime, mais c'est aussi, pour moi, la grande Facebookerie, c'est une sorte de bureau des hypothèses, c'est-à-dire qu'il y a des textes que je teste, en fait, dessus. Je balance des morceaux de texte, des choses en cours, je vois comment les gens réagissent, je vois à quoi ils le raccordent, ça me permet d'aller faire des recherches. En fait, je fais travailler mes amis de la grande Facebookerie. Peut-être que je devrais les payer.
Il est beaucoup question aussi de vos états d'âme dans ce premier récit autobiographique, Paquem Thielmont, de vos états d'âme, de vos échecs, des petits bonheurs sur fond de grands drames. Des fois, c'est le contraire. et surtout, de votre manière d'être ailleurs, absent ici, en 2002 par exemple, alors que vous pourriez vous réjouir de visiter le Japon avec votre compagne, vous déprimez, vous êtes persuadé que vous êtes un écrivain raté, et vous ne rêvez que d'une seule chose, une obsession, c'est de tuer un présentateur de télévision. Alors là, quand vous racontez ça, Paquem Thielmont, c'est quoi? C'est la fiction qui s'invite dans votre récit autobiographique?
Ah non, c'est tout à fait vrai. Bien, hélas, la fiction s'invite dans ma vie peut-être à ce moment-là, oui. C'est-à-dire que c'est un moment où je suis avec ma compagne, elle est japonaise. Donc à ce moment-là, j'entends beaucoup le japonais. Donc ça crée probablement une forme d'étrangeté dans mon quotidien. Je suis chez des amis à elle, ils discutent entre eux, donc du coup, évidemment, mon esprit part un peu, se perd, se focalise sur l'émission de télé qui est en train de passer, le pauvre présentateur de cette émission, qui est un présentateur d'émission culinaire. Je vois que vous n'avez pas dit son nom, peut-être que... Mais on peut le dire, quoi, parce que je veux aucun mal en réalité. C'est un mec qui s'appelle Masaki Sakai, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, mais sur le moment qui est en train de présenter une émission culinaire. Et je suis persuadé, je sais absolument pas pourquoi sur le moment, je suis persuadé en fait que ça y est, c'est comme une révélation, je sais que je vais tuer cet homme. Et que tous les signes de ce que je vois autour de moi m'indiquent que ça va être malheureusement mon lot, que c'est ça qui va m'arriver, et que je vais voir de toute façon tout ça va s'éclairer les jours qui vont suivre. Je trouverai l'arme, je trouverai son adresse, tout ça me sera plus ou moins donné par des signes que je vais trouver sur ma route.
Et vous vous rendez compte que vous donnez autant d'arguments à ceux qui pensent que vous êtes un gourou à la manière de Charles Manson quand vous écrivez ça, Paquem Thielmont.
Mais évidemment, oui, je m'en rends compte. Je me rends bien compte du problème. j'essaye d'expliquer aussi tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que ça a eu lieu. Alors, ça a eu lieu parce que j'étais obsédé par Mark David Chapman, l'homme qui a tué John Lennon, par le fait que lui-même était sur une espèce de a eu son espèce de labyrinthe de signes qui l'a amené à ça, par l'idée en fait qu'il y a une espèce de très grande injustice dans ce monde, qui est une injustice structurelle, c'est-à-dire qu'il peut pas exister un John Lennon s'il n'y a pas des milliers de Mark David Chapman pour l'aimer, que c'est certainement pas ce que John Lennon voulait, mais que de toute façon c'est comme ça que ça se donne, et que donc du coup on se retrouve de toute façon dans une situation, si on est dans une situation de création, dans une situation qui est beaucoup trop inégalitaire pour, on va dire, mes propres idéaux, mon horizon de vie. Moi, j'ai un horizon de vie où si je partage quelque chose, parmi mes principes, il y a le principe d'une égalité entre les hommes. Et le fait qu'il y ait des personnes qui s'extraient de cette condition-là, au moins par le fait qu'ils sont soudain admirés par d'autres, est quelque chose d'assez difficile à supporter. Alors moi-même, je suis fan de beaucoup beaucoup de gens, je suis fan de Lennon, je suis fan de Zappa, je suis fan d'un grand nombre de musiciens, cinéastes, écrivains, etc. Dans mon quotidien, ça me dérange pas du tout, enfin je suis pas en train de les jalouser, mais je comprends qu'on puisse les jalouser, et soudain je jalousais quelqu'un dont j'avais rien à foutre. Mais c'est presque comme si mon esprit, ou quelque chose dans mon esprit, voulait me montrer comment ça fonctionnait. C'est-à-dire comment on pouvait passer de l'admiration, de la fascination à la détestation.
Est-ce que vous avez une raison pour expliquer ces états d'âme, votre côté passionnel, cette envie de vivre le malheur, parce que vous savez que c'est au bout du malheur que vous allez pouvoir rencontrer peut-être ce moment fugace qui est le bonheur ou qui est le plaisir, et la guerre de l'âme, parce que vous terminez justement ce récit Paquem Thielmont en disant qu'il faut la mener, cette guerre de l'âme. Ouais. La guerre de l'âme, c'est très beau, mais ça veut dire quoi?
Alors ça veut dire que en fait, si on suit l'un des 100 rois qui s'appelle Basilide, il y a deux âmes en nous. Il y a deux âmes en nous. On n'a pas qu'une âme, on a deux âmes. On a notre âme et on a une âme qui a été placée en nous par le mauvais dieu. Et c'est une âme qui s'appelle l'âme adventiste. Cette âme adventiste, c'est comme une sentinelle de ce mauvais démiurge. Et c'est celle qui nous fait chuter. Et c'est une explication que je trouve beaucoup plus intéressante que l'explication, on va dire, que les chrétiens ont du péché originel. chrétien ou enfin bon quoi monothéiste en général d'ailleurs parce que c'est quelque chose que je crois est inscrit enfin bon je connais pas assez le judaïsme ni l'islam pour aller m'avancer sur leur interprétation de cette notion mais je peux dire juste que les basilides répondent en tout cas à ce moment-là à l'idée que s'il y a du mal en nous ou s'il y a des choses en nous qui nous font chuter ou qui nous font faire du mal ou qui nous font agir tel qu'on ne veut pas c'est suite à cette vieille histoire du péché originel de Adam et Ève et qu'on porterait tous et donc de toute façon tout homme est nécessairement mauvais ou nécessairement a beaucoup de mal en lui. L'interprétation des 100 rois, qui serait presque plus une sorte de pré-rousseauisme d'une certaine façon, même si je veux pas non plus caricaturer la pensée de Rousseau, qui est une pensée très complexe, ni celle des 100 rois, ce serait celle de cette âme sentinelle faite pour nous faire tomber et faite pour nous faire aimer ce qu'on n'aime pas ou vouloir ce qu'on veut pas. Et donc nous entraîner, on va dire, sur toutes ces voies de garage ou sur toutes ces pentes, et ça, je trouvais ça très intéressant. C'est-à-dire que s'il y a une lutte à avoir en soi-même,
C'est entre le yin et le yang.
Tout à fait. Et donc c'est pour ça, le terme de guerre de l'âme renvoie à ça.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Merci Pacôme Thielman d'être passé ce matin pour nous parler de votre récit autobiographique. Vous, l'essayiste, plutôt pop culture, tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or, c'est le titre.
Merci, merci Tufik.
Dans un instant, les informations, tout de suite après le journal des idées, et puis les enjeux internationaux, les petits matins sur France Culture. Merci d'être de plus en plus fidèles à nous. On se retrouve demain à la même heure.